Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. À nouveau ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Antoine Blondin, L'humeur vagabonde. Prévoyant que l'attente serait brève, je ne m'éloignais pas. Ce hall, vaste comme une gare, me plaisait. J'y renouais avec un parfum de départ qui était peut-être celui du retour. L'argent et la tendresse y tenaient leur comptoir. Mandats, télégrammes, lettres recommandées, pouvait-on correspondre, sinon pour s'entraider, sinon pour s'entraimer ? Je faisais les 100 pas, attentif à chaque sonnerie, pensant au nombre d'intermédiaires qui conspiraient à me rapprocher de ma femme. L'heure s'avança, et je commençais malgré moi à interpréter la durée qui s'écoulait, en sorte qu'après avoir accusé Denise de manquer d'empressement ou de refuser de répondre à mon appel, je l'imaginais maintenant en train de vadrouiller dans les gentilhommières des environs. Je me méfiais, pour les connaître, de ces paysans sortis dans la botte, qui sillonnaient le pays dans des automobiles irréprochables, avec aux joues plus de 100 qu'il n'en faudrait. Les femmes les plus solides résistaient mal au prestige épais de ces grands carnassiers. La poste se vidait peu à peu. Les gens qui survenaient encore affichaient la mine tragique et obséquieuse des retardataires. Derrière les comptoirs d'amour, on me lorgnait sans aménité. Enfin, ce fut à moi de me ruer dans une cabine. Elle avait dû servir toute la journée, elle était chaude et moite, pleine de senteurs entêtantes. Je ne trouvais pas la lumière, je fermais les yeux pour me concentrer, je m'énervais. « Allô, Denise, c'est moi. Ne crois pas que je veuille tes pieds. » Oh, ça débutait bien. J'étais le premier étonné du contenu de mon sac. Elle eut une réponse équivoque. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'as pas donné ton adresse à ta mère, elle est anxieuse. » Immédiatement, j'étais contré, obligé de me défendre. Le téléphone est heureusement fait pour poser des questions et non pour y répondre. « Je n'ai rien arrêté de définitif. Et les enfants ? Bon, ça va. » Ils sont là avec le feu aux dents. Tu pourrais presque les entendre crier. Comment te débrouilles-tu ? As-tu cherché une situation ? Cher petit génie, cher grand commis, elle ne résistait pas au démon d'organiser des jours qu'elle ne partageait plus. Et quel temps fait-il chez vous ? Pendant 5 minutes, je sus ce qu'est d'être aveugle. C'est quand on téléphone d'une province lointaine à une femme que l'on aime et qu'on lui demande la couleur du jour et celle de sa robe comme si le prix de l'existence en dépendait. Si elle se tait, le monde soudain n'existe plus. « Ne sois pas idiot, dit-elle, il y a des choses plus importantes. Te faut-il de l'argent ? As-tu des ennuis ou quoi ?»« Non, pas du tout. Je m'ennuie, c'est différent. Ben, »« C'est bien ce que tu voulais, dit-elle. » « Pas tout à fait, dis-je, encore que l'aveu m'en coûta. » Et j'ouvrais les yeux dans l'obscurité, abrité, confiant, prêt aux confidences douillettes. « Terminé ?» demanda une voix. « Quoi ? Qu'est-ce qui est terminé ? Bredouillai-je. « Terminé ?» répéta la voix. « Oui, » fit Denise. Je restai un certain temps, la main, l'oreille, le cœur en suspens, puis je raccrochai. je n'en savais pas davantage, sinon qu'il faisait gris à mauve sac, que Denise portait sa jupe de velours, son chandail vert, ses souliers plats, et que la rouille d'automne envahissait déjà les marronniers. À moins qu'on ne m'eût menti. Chez moi, je trouvais le patron un peu désarçonné, ce qui n'était pas courant. Rompant avec la réserve appuyée qu'il observait envers les clients, il me tendit une enveloppe.
La police est encore venue. Ils ont laissé cela, ce doit être une convocation. Je ne voudrais pas avoir d'embêtement au sujet de quelqu'un qui consomme aussi peu que vous.
C'était en effet une convocation. On me prévenait que mes papiers étaient à ma disposition. Je n'avais qu'à venir les chercher aux heures ouvrables. En somme, après une petite syncope, je renaissais à l'état civil. Ma montre se remettait à battre. Je calculais qu'il y avait une semaine que j'avais débarqué, et le plus clair du progrès accompli tenait en ce que je recouvrais le droit de quitter Paris. En me couchant ce soir-là, je constatais que, depuis mon initiation au caviar, j'avais à peu près épuisé toutes mes tentations sans même les assouvir. C'était peut-être le moment d'avoir le courage de ma lâcheté. Dans la contemplation de ma carte d'identité, je décidai de ne plus essayer de m'écarter de mon signalement. Les faits prouvaient suffisamment que ce cultivateur de 26 ans, marié et père de deux enfants, c'était bien moi. Je n'aspirais plus qu'à le rejoindre dans le néant béat de son signe particulier. Ma seule ambition demeurait de connaître le contenu de ces 7 jours durant lesquels ma vie s'était arrêtée. Mais s'était-elle vraiment arrêtée? Notre vie ne cesse de se faire ailleurs, derrière les murs, dans de lointains ateliers. Pour une fois, la réponse était à la portée de ma main. Je pris le train dans la matinée, m'arrachant crûment, lucidement, à chaque image de cette ville cruelle sous un même soleil. Je laissai derrière moi cette Myriam, qui ne me reconnaîtrait jamais, cette négresse qui n'osait dire son nom, ce miroir vide désormais. Avant de partir, espérant me faire le cœur net, j'avais demandé perfidement à la Souillon quel était ce voisin qui avait mené tant de tapages pendant mon séjour. Plus sournoise encore, elle m'avait répondu « C'est un débarras, on y met des vieilles choses. » Et plus tard, le patron « Je ne l'ai pas entendu. » Je ne saurais donc jamais. Je laissais aussi Jean Casal. Cet éclair de chaleur aurait pu me retenir. Peut-être ne l'eût-il pas cherché. Mes forces ne me donnaient guère de place dans son architecture. Cet homme n'ignorait pas que l'enfant prodigue n'est pas né d'hier. Le père prodigue non plus. Il m'aurait renvoyé dans mes foyers. À Angoulême, je changeais. C'est-à-dire que je ne fus plus qu'au plaisir de la surprise que j'allais faire. Ai-je dit que j'aimais les surprises? Au fond, je me retrouvais presque intact. Ce fut Mauvezac. Le plus périlleux en ces histoires est d'affronter les comparses. Ils jugent promptement et mal. Ils vous obligent à commettre des fautes, à vous découvrir, à dévier votre chemin. Un second voyageur inconnu, celui-là, détourna la curiosité de l'employé aux billes. « Ça va, monsieur Benoît, il n'y a rien de cassé au moins. »« J'espère, » fis-je en me forçant à rire. « Ce serait à vous de me l'apprendre. » Mais il ne me suivait pas. Il écoutait les pas de l'autre. Les ondes nouvelles, éveillées par ce caillou insolite, rident sur le silence, entre lesquels je plongeais à mon tour. La nuit tombée me fit une cape légère. Une fenêtre brillait chez ma mère. Je balançai longuement si je m'y arrêterais. Il m'apparut que ce n'était pas à elle, mais à Denise, que je devais rendre compte en premier lieu. C'était repartir d'un mauvais pied que d'arriver à la maison en compagnie de ma mère avec cet air que nous n'avions que trop parfois de comploter contre elle. « Tiens donc, » penserait Denise, «
Ils ont raté leur affaire, mais ils recommenceront à la première occasion. C'est nous, au contraire, qui, le lendemain, imposerions ensemble l'évidence de notre harmonie. Nous nous présenterions radieux, avec un peu de chance, ma mère prendrait mon échec pour une conversion. À moins qu'il ne fût déjà trop tard. L'avenue de la gare refermait derrière moi, bloquant mes issues, et je n'apercevais plus dans l'étranglement de la perspective que la tache plus pâle, minuscule de la station. Chaque mètre de cette route qui m'était coutumière, où j'avais promené mon enfance, me rapprochait d'un verdict imprévisible. Le clocher de l'église se mit à sonner et je souris de lui prêter l'oreille. De toute éternité, le carillon laïque de la mairie, déclenché 6 secondes après, venait tout embrouiller si bien qu'à partir des Angélus, l'un l'autre se chevauchant, nous devions renoncer à savoir l'heure, sauf à compter 13 coups pour 7 heures, 18 pour minuit. Mais nous nous contentions de connaître des heures simples. Oui, le plus étonnant était encore que quelque chose d'inattendu pût survenir dans ce paysage. J'en tirai l'assurance qu'il m'était permis de pousser mon portail d'un esprit égal, sans commettre un contresens tragique. Voici la maison. Elle nous faisait honneur. Nous l'avions bâtie en des époques difficiles. Une date gravée au-dessus du seuil nous le rappelait, 1942. Une bonne année pour les mariages, ces patients coupages de sang. C'était une maison d'appellation contrôlée promise à vieillir comme une bonne bouteille. L'aigreur était venue d'abord. Sur le côté, un vaste carré de clarté se projetait, au-delà du gravier jusqu'à la haie de fusain où il se brisait. Sur cet écran se dessinait l'ombre méconnaissable d'une silhouette, une seule. Je tournai l'angle, exploitant une marge de gazon pour étouffer les craquements produits par ma démarche. Un dernier soupçon grondait encore en moi, 20 chiens aboyant à la lune. Par la baie vitrée, j'aperçus Denise, familière et renouvelée, comme elle m'était apparue après sa première maternité. Elle fumait cette cigarette du soir par où elle entendait signifier qu'elle avait fini sa journée, une journée d'homme. Mais je lui découvrais plus d'abandon, plus de féminité qu'en ma présence. Il semblait qu'elle ménageât à son côté l'empreinte en creux d'une place à prendre. Je n'avais que trop perdu de temps. Je ne me sentis pas le droit de l'observer davantage. C'étaient les règles du jeu qu'il fallait observer.
Les matins se suivent, se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, mais c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à se dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Un demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles, on se regarde, on rit, on crâne un peu. On a toujours oublié quelque chose. Pas facile de se dire adieu. Et l'on sait bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un compte. toutes de ces raisons. On a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé quand on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À un demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
L'humeur vagabonde, Antoine Blondin. Maintenant, je gravissais le perron. J'ouvrais fermement ma porte. Je n'étais plus ce compagnon du hasard qui avait vaguement envie de frapper avant d'entrer chez lui. Dans notre antichambre se mêlaient les odeurs de notre chaude étable humaine. Le petit lait des enfants, le parfum de Denise, une trace du mien peut-être. Je vis qu'on avait laissé au porte-manteau une houppelande et un feutre cabossé, vestige des années précaires où je battais les sentiers de ma guerre pour nourrir ma maison et la consolider. Les griefs de ma reine me revinrent en mémoire. Ma mère s'amuserait bien. Je fus dans le studio. Denise leva la tête. Elle esquissa un mouvement pour se lever. « Non !» lui criai-je, « ne bouge plus !» Je voyais deux expressions se composer sur son visage, cette certaine dureté d'autrefois nuancée par une aube étrange. Je ne voulais pas qu'elle se ressaisisse, que nous recommencions à vêtir nos cuirasses, à les entrechoquer. Je m'avançai vers elle, les bras tendus, et je crois qu'elle ouvrait les siens quand les coups de feu éclatèrent. Alors elle se replia sur le bord du divan, et elle ne bougea plus. Denise était membre honoraire de la fanfare. Je l'ignorais. Je ne l'ai appris que lorsque le chef est venu me trouver pour régler les obsèques, Berlioz ou Chopin. Ses cotisations lui donnaient le droit d'être accompagné en musique jusqu'au Garenne. Cette jeune femme qui n'était pas d'ici, s'en allant par les chemins creux derrière ces hommes galonnés, leurs petits pas mécaniques, leurs joues gonflées, leurs bannières de velours tintinabulant de médailles, j'ai refusé en raison des circonstances. Le chef apparut soulagé. J'ai suivi le convoi tout seul, avec Gustave, le jardinier, et la messagère goitreuse qui se déguise en marguilière à l'occasion et gambade volontiers autour des corbillards avec un rameau de buis. Comme nous passions devant le tennis, un jeune ménage avec lequel nous entretenions une amitié de façade s'est arrêté de jouer. Puis, parvenu devant la fosse, j'ai entendu à nouveau le bruit mat des échanges, et plus loin, un coup de fusil. La chasse venait d'ouvrir, et l'on tirait encore un peu partout, avec prodigalité. Nous sommes restés longtemps immobiles. Cependant, que tous les vents nous prenaient la figure. Dans le remue-ménage, j'ai aperçu le cercueil de mon père. Quel rendez-vous ! Denise aurait peut-être préféré être ailleurs, je veux dire près des siens, dans son lointain pays. Elle avait toujours manifesté toutes ses volontés, sauf les dernières. Je me suis efforcé de ne pas sangloter. J'ai remis à plus tard d'avoir du chagrin. J'ai attendu comme d'une délivrance de tout mon être le moment de pouvoir pleurer. À force de me retenir, le besoin m'a passé. Il ne m'est plus resté que cette appréhension de la douleur qui m'étreint parfois. J'ai encore toute ma tristesse devant moi. Je ne sais si j'en dispose ou si c'est elle qui attend son heure. Aujourd'hui même, je suis un homme qui peut fondre en larmes d'un instant à l'autre. Nous sommes plus nombreux qu'on ne pense dans ce cas. Gustave se tenait un peu en arrière et son attitude, son vêtement révélaient qu'il s'agissait malgré tout d'une cérémonie. À la fin, il m'a mis une main sur l'épaule. Je me suis avisé de ce que le prêtre s'était tu et nous sommes rentrés. Avant d'arriver au bourg, Gustave m'a dit « Elle s'en sortira. » Il s'agissait de ma mère. Ma mère était depuis 3 jours à la prison d'Angoulême. Les gens du village ne l'avaient pas vue arriver, comme elle craignait tant. Une automobile basse l'avait prise à la gendarmerie où elle s'était rendue d'elle-même après avoir fermé sa maison. À aucun moment, elle n'avait cherché à fuir, ni à se dérober, fût-ce par réflexe. Quand j'avais bondi dans le jardin, après que Denise se fût effondrée, je l'avais trouvée figée devant la baie vitrée, son chapeau sur la tête, serrant par le canon le fusil de mon père qui venait de servir ainsi pour la première fois. Croyant qu'on accourait déjà pour l'arrêter, incapable dans la confusion où elle était de dissocier le crime de son châtiment, elle s'était écriée « Guillotinez-moi !» Puis, m'ayant reconnue, elle s'était évanouie. Plus tard, elle avait gardé les enfants qui s'étaient réveillés, tandis que j'allais chercher un médecin. Je lui avais demandé « Qu'allons-nous faire ?» Elle m'avait répondu « Prier pour elle ?» À l'horreur du début avait succédé une manière de calme. Elle contemplait d'un regard intérieur son monstrueux chef-d'œuvre d'amour maternel, ce monument qui nous écrasait tous. Le reste n'était plus de son ressort. Elle s'en remettait aux autres. Même elle se complaisait vaguement à cette chose, quelque part, qui recommençait à battre pour elle une société humaine qui avait cessé de tourner depuis longtemps. Le médecin, après lui avoir fait une piqûre, a mis cette chose en marche. Sinon, nous serions encore dans la maison ouverte sur la nuit, entre nous. Pour ce qui est de m'entendre, le juge d'instruction m'a entendu. Je me suis aventuré aux limites de l'injure à magistrat. C'était un homme courtois et dissimulé, grand traqueur d'apparence, qui prétendait expliquer les faits par les êtres et les êtres par d'autres faits. Si bien qu'en définitive, tout son système consistait à démontrer l'accidentel à la lumière du quotidien. La vague à travers les gouttes d'eau. Il nous a mis à nu. Et avec lui, le monde a commencé de se pencher sur cette affaire qui ne concernait que nous, où nous étions tous des victimes. C'était cela qu'on ne nous pardonnait pas. Il faut des coupables. La génitrix de Mauvezac, comme les journaux appelaient ma mère, n'était pas une criminelle. C'était une héroïne malheureuse. Posant ses lunettes sur ce dossier trop élémentaire dont la minceur le tracasse, irrite le greffier croque-menu, choque la conscience universelle, le juge me répète « Comment voulez-vous que je coupe dans ce mélodrame ? Votre mère abat votre femme lorsqu'elle croit s'apercevoir qu'elle reçoit des hommes en votre absence. » « Un homme ? » corrige doucement ma mère. Elle se tient sur une chaise un peu dans l'ombre où la bavette de son avocat met une tache claire. Elle me sourit. C'est moi maintenant qui vais la voir au parloir, lui prépare des colis, m'inquiète de ses humeurs et de ses appétits. « Un homme, si vous voulez, dit le juge, et cet homme, par une péripétie invraisemblable, c'est vous-même qui venez d'arriver sans prévenir personne, mais la raison s'insurge. » Les hommes ont peur de l'absurde. C'est à sa manière une part divine dans les choses qu'il s'agit de réduire à toute force, un gag de Dieu qui ne fait pas rire. Et ils sont tellement persuadés que ce climat les baigne que s'ils ne le niaient pas, ils n'oseraient plus mettre le nez dehors. Le juge se tourne vers ma mère. « Voyons, je sais que vous passez pour une femme énergique, vous l'avez prouvé en élevant à peu près seul votre enfant. Le souci et le soin de son bonheur ont été le moteur et le but des plus longues années de votre vie. Je veux bien croire que vous continuiez de monter une garde vigilante autour de ce qui avait été si longtemps votre raison d'être, mais pas au point de vous promener avec un fusil, ni de vous poster en sentinelle devant le foyer de votre fils, que celui-ci venait précisément de déserter. Il y a autre chose. On dit que vous ne vous entendiez pas bien avec votre belle-fille. C'est vrai, dit ma mère. Mais je l'appréciais. D'ailleurs, il suffisait que mon fils l'aimât. Si nous n'avions pas tenu à elle, je n'aurais pas tiré. Votre fils tenait tellement à elle qu'il l'avait abandonnée. Je savais qu'il reviendrait. Ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. Il faudrait avoir connu son père. Cette terre que nous essayons chaque fois de quitter nous rappelle toujours. Et puis, j'avais deviné, à quelques paroles prononcées avant son départ, à cette lettre qu'il m'a écrite, qu'il l'aimait plus que je ne croyais. J'avais renoncé à lui souhaiter tel ou tel bonheur. Est-ce qu'il vous disait dans cette lettre qu'il allait revenir ? Non. Il s'inquiétait de savoir si sa femme avait pris un homme de peine. « Qu'est-ce que ça signifie ? » dit le juge, en baissant les coins de sa bouche. « Je ne sais pas, dis-je. Ça aussi, ça ne s'explique pas. »« Eh bien moi, fait le juge, je sais. C'était une manière de demander à votre mère, sans le lui demander, si votre femme, excusez-moi, ne se consolait pas trop vite de votre absence. Et sa réponse, c'est ce coup de fusil. « Oui, dit ma mère. » Je me suis cruellement trompé. Seulement, madame, vous n'avez surtout pas pensé un seul instant que cette sentence sommaire privait votre fils du privilège suprême d'accorder son pardon à celle qu'il aimait avec une ferveur accrue, s'il faut vous en croire. La colère m'a prise, dit ma mère. J'allais pour rapporter un sécateur. Au fond, ça n'était peut-être qu'un prétexte, je l'ignore. En chemin, je me dis... Et si je ne la trouvais pas seule ? Quand dans une même lueur vous constatez ce que vous venez de redouter, la tête s'en va. Un homme rôdait autour de la maison, à la fois circonspect et familier. Je suis retourné chez moi, j'ai décroché le fusil, espérant encore que ce fût un voleur. Mais lorsque je suis revenu, j'ai vu par la fenêtre que Denise était la proie de cette aimantation entre deux êtres qui les précipitent l'un vers l'autre. J'ai pensé à mon pauvre vieux petit qui se battait là-bas tout seul au milieu des difficultés et j'ai tiré. Il est étrange, madame, que quelqu'un doué d'une aussi vive sensibilité maternelle n'ait pas deviné qu'il s'agissait de votre fils. Je n'ai distingué qu'une veste à carreaux, dit ma mère, une veste d'inconnu, et l'expression de ma bru, je ne la reconnaissais pas. Et c'est peut-être uniquement pour cela. C'est le métier du juge d'oublier que les péripéties d'un même amour peuvent modeler différemment le visage. Il ne considère pas nos nuages changeants. Il tranche dans le dur. Autrement dit, jamais votre fils ne lui avait fait cet effet-là. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Antoine Blondin, L'humeur vagabonde, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.